Alors ce matin, je voudrais vous encourager, peut-être m'encourager. On s'encourage mutuellement, hein, vous savez, la parole de Dieu. On donne, on reçoit, on donne. On s'encourage mutuellement. Et ce matin, j'ai à cœur préparer cela pour vous, pour moi, pour chacun. Ça m'a fait du bien, ça vous fera certainement du bien. Montrant que la vie chrétienne est faite d'étapes. Un peu comme le Tour de France, hein. C'est vrai qu'il y a des étapes. Alors, peut-être que certains, quand ils partent, la première étape, ils croient qu'ils sont arrivés à Paris. Hein. Non, non, non. Il y aura plein d'étapes, plein d'obstacles, plein de difficultés. Mais s'ils tiennent bon, s'ils persévèrent, s'ils sont constants, eh bien, ce qui est important, c'est de franchir la ligne d'arrivée, hein, avec la grâce de Dieu. Donc ce matin, je vous propose 7 étapes dans la vie chrétienne. Et on va faire un parallèle entre la vie naturelle, notre vie, la vie à chacun, cette vie est naturelle, et la vie, bien sûr, spirituelle, notre vie chrétienne. Nous remarquons une chose, et vous le savez, je ne vous apprends rien, que la vie, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Il n'y a rien de statique, il n'y a rien... ça se croit, ça développe, ça grandit, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Et bien sûr, comme toute chose, eh bien, ça commence par une naissance. Voilà, hein. Je dis des fois que l'Église, c'est une maternité. Hein. Et il doit y avoir beaucoup de naissances, mais de naissances spirituelles. Hein. La naissance, c'est quoi? C'est l'origine. C'est le départ, et je pense qu'un jour, il y a eu un départ. Amen. Un bon départ. Il faut prendre toujours un bon départ. Alors, je ne sais pas où vous êtes né, si vous êtes né dans cette salle. Moi, je suis né dans une assemblée en Avignon. Je me rappelle bien l'adresse, hein, 21G rue des Lys. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Avignon. Peut-être vous connaissez le pont d'Avignon, mais ce n'est pas le bon endroit. Hein. Non, non, ce n'est pas là le lieu de naissance. Et je suis né de nouveau. Je suis né une première fois, comme vous tous. Mais le chrétien, lui, il est né une deuxième fois. Ou il est rené une deuxième fois. Première fois, c'est à la vie naturelle. Et c'est ce parallèle. Et la deuxième fois, c'est une nouvelle naissance à une vie spirituelle, à une vie avec le Seigneur, une nouvelle vie. Comme disait Jésus dans l'évangile de Jean à Nicodème, hein, celui qui a commencé une naissance, eh bien, ce qui est né de la chair est chair, et poussière, passe, temporelle, visible, mais éphémère. Tandis que ce qui est né de l'esprit, alors c'est spirituel, c'est éternel, c'est la véritable. Alors je pense que vous êtes bien nés une première fois puisque vous êtes là. Hein. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des jeunes, des moins jeunes. Hein. Chacun est à un stade différent. Mais l'essentiel c'est que, et je veux croire que tous ceux qui sont dans ce lieu sont nés une nouvelle fois, sont nés de l'Esprit, sont nés par l'Évangile, sont nés avec le Seigneur, sont nés de nouveau. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Donc le premier point, c'est la naissance. Hein. Nicodème, Jésus lui a dit, il faut, c'est un impératif, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ce nouveau, dans le grec, anoten, veut aussi bien dire de nouveau, neuf, mais... ce qui est neuf, d'en haut. Ça ne ressort pas, mais c'est d'en haut. Et c'est vrai que ce qui est nouveau, véritablement nouveau, nouvelle vie, nouveau monde, vous voyez, on est un peu dans deux mondes à la fois, nous. On est, j'allais dire, dans l'ancien monde, et on est à la fois dans le nouveau monde. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais en moi, vous aurez la paix, en moi. Et nous sommes à la fois dans le monde, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, Mais déjà, par la foi et par notre nouvelle naissance, nous sommes rentrés dans le nouveau monde spirituel du royaume de Dieu, des choses de Dieu, de la vie éternelle, de la vie véritable. Nous avons une espérance, la gloire du Seigneur. Et si nous sommes nés de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème, qui est un impératif, eh bien, nous sommes participants de la nature divine, de la nouvelle nature. Il y a en nous un homme nouveau. Et tout cela commence, eh bien, le jour où on reçoit le Seigneur. La Bible dit, la lumière, Jésus est la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, pas la religion, pas le, non, non, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je ne sais pas si ce matin nous réalisons le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, non pas de la chair. La chair, c'est une chose, mais la chair, c'est temporel, c'est périssable. Mais nés d'en haut, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, régénérés par la parole du Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean ajoute, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Amen. Vous l'êtes, je le suis. Et peut-être quelqu'un a besoin, eh bien, de connaître cette expérience, cette rencontre d'une nouvelle naissance. Que ce soit dans notre jeunesse, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais 18 ans et demi, vous voyez. J'étais jeune, hein. J'ai vieilli, mais le juste, le Seigneur ne l'abandonne pas. Hein. Voilà. Ah. Et il y a des étapes dans la vie. On ne peut pas toujours... Des fois, il y a des personnes qui disent « Ah, je voudrais avoir mes 20 ans. Hein. » Ouais, les 20 ans, ils sont un peu loin. Hein. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, je disais « Quand est-ce que j'aurai 20 ans hein. Quand est-ce que je serai un grand ?» Moi, j'avais entendu dire, quand les petits, on est petits, hein, on fait, allez, disons quelques bêtises, vous, vous en faites pas, je sais. Mais des fois, on fait des choses. Alors je me disais, oui, tu te fais gronder, tu fais des bêtises. Mais quand tu seras grand, alors là, tu seras parfait, quoi. Hein. Mais je me suis aperçu que, petit ou grand, on fait toujours quelques... Bon, hein. Il ne faut pas le dire aux enfants, ça. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on a un nombre d'années eh bien qu'on est toujours dans le bon cadre, loin de là, malheureusement. Mais nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, une assurance. Nous le sommes, non pas nous le serons. Ça, nous le serons plus tard dans le royaume de Dieu, semblable au Seigneur. Mais ici-bas, déjà, nous faisons partie... j'allais dire, de ce nouveau monde, la famille de Dieu, et c'est un privilège. Quand les disciples sont revenus un jour d'une mission, ils avaient guéri des malades, chassé des démons, alors ils étaient heureux, ils étaient contents, ils sont allés voir le pasteur, Jésus, ils ont dit, « Ah, frère, il est arrivé ça, c'était merveilleux !» Jésus n'a pas dit que ce n'était pas bien, il a dit « C'est bien, mais réjouissez-vous plutôt, avant toute chose !» C'est bien, réjouissez-vous, merci Seigneur pour tout ce qui a été fait, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel, dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce matin, mon ami, tu peux te réjouir de ce que ton nom, ta personne, est inscrite dans le ciel, dans le livre de vie, j'allais dire le livre de vie de l'agneau, hein, le livre de vie. Non pas d'une église, d'un registre de cette terre, mais d'appartenir au Seigneur. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau, de plus magnifique que de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume et de la domination de Satan, passés à la domination de Dieu. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes à lui. Nous le confessons, nous le proclamons, nous devons le vivre et c'est un privilège et nous devons louer le Seigneur tous les jours pour cela. Amen. Que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui étions enfants de colère, enfants de rébellion, enfants du péché. Et la preuve, dit l'apôtre Paul aux Romains, nous avons reçu l'Esprit. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, c'est par l'action de l'Esprit, bien sûr, la nouvelle naissance ne se fait que par l'action du Saint-Esprit. Et l'Esprit rend témoignage, il atteste, témoignage, atteste, à notre cœur, eh bien, que nous sommes enfants de Dieu, que c'est une réalité, que nous sommes à lui, que personne ne peut nous arracher de sa main, de son cœur, de cette vie, que nous sommes à lui, nous sommes en sécurité, nous sommes en Christ. D'ailleurs, maintenant, nous devrions dire notre vie, elle est en Christ. Nous vivons dans ce monde, oui, mais nous sommes en Christ. Christ est en nous, nous sommes en lui. En lui, nous sommes en communion, nous demeurons en lui, et c'est là que nous sommes, dit la Bible, héritiers, co-héritiers de Christ. Parfois, j'entends des personnes dire « Ah, je vais être béni, ou je serai béni, ou je veux une bénédiction. » Mais l'Écriture dit, Éphésiens 1, 3, « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais en qui ? En Christ. C'est en Christ. » Hors de Christ, il n'y a rien. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Nous sommes morts dans nos péchés. Mais en Christ, nous avons tout pleinement. En Christ, nous avons la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moi, je pense que nous avons besoin, et parfois je disais ça à quelqu'un et je discutais un peu avec lui, j'ai dit, mais aujourd'hui, nous avons besoin de nous recentrer, j'allais presque dire, sur la personne du Seigneur Jésus, comme nous l'avons chanté, l'agneau que nous adorons et nous célébrons. Le centre, ce n'est pas nous, le centre, c'est le Seigneur. Tout est centré, tout converge, tout va vers... D'ailleurs, la Bible, c'est cela. C'est une révélation progressive, annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament, réalisée dans les Évangiles. Et nous arrivons à l'Apocalypse, où nous voyons l'accomplissement de la gloire du Seigneur. Notre force, notre foi, notre bien, notre solidité, c'est d'être au Seigneur, de lui appartenir. Et Jésus a dit, pour nous donner de la sécurité, personne, mes brebis, personne ne pourra les ravir de ma main. Mais notre part à nous, c'est de demeurer dans sa main. Il ne faut pas sortir de sa main, il ne faut pas... Et j'allais dire, même parfois, le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, nous aurions tendance à glisser. Je crois que sa main, vous n'avez pas senti cette main qui vient nous, un petit peu, nous rattraper des fois. Peut-être que quelques-uns, et il nous est arrivé dans les moments de notre vie, nous aurions tendance à glisser un peu de sa main, à aller un petit peu gambader ailleurs, n'est-ce pas ? Et le Seigneur œuvre toujours pour nous ramener à lui, parce que c'est de lui, c'est en lui. Tout a été créé pour lui, par lui, Christ, le Seigneur de gloire. Que le Seigneur soit vraiment le centre de notre vie chrétienne et spirituelle. Alors si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des beaux bébés. Ah, des bébés. Il y en a des bébés là, non ? Il y a un petit bébé, combien elle a ? Deux mois, Christelle. Le plus beau bébé du monde, hein, pour son papa et sa maman. Mais bien sûr, une maman, elle a toujours le plus beau bébé du monde, parce que c'est son enfant. Hein. Et c'est le fruit de l'amour, de la grâce. Oh, je pense à une chose d'un seul coup. Oui, en effet, j'étais encore... sur Béziers, que je faisais mes premiers pas avec le Seigneur, on m'avait donné, je me rappelle, le frère Raffinesque, une liste de visites à faire. Et donc, je suis allé visiter. Et il m'a dit, oh, il y a une sœur, elle vient d'avoir un enfant, passe, va lui la saluer. J'arrive dans cette maternité, la sœur, elle me dit, ah, regardez mon enfant, je regarde l'enfant. Oh, je regarde. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je disais, c'est pas le plus beau bébé du monde, ça. Mais elle avait l'air ravie. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Après, j'ai eu de l'expérience, hein, puisque j'en ai eu quatre. Mais là, c'était vraiment, vous savez, quand vous êtes tout jeune, J'arrive chez le pasteur, je lui dis, mais je sais pas, mais la sœur, elle avait l'air toute contente, joyeuse de cet enfant. Quand j'ai regardé l'enfant, je dis, mais il a une tête comme ça. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est la méthode de l'accouchement, n'est-ce pas? On avait... Oh là là. On m'a rassuré après, j'ai cru que l'enfant était difforme. Hein? Maintenant, j'ai l'expérience. Donc, si vous voyez un jour un beau bébé, mais qui a la tête un peu allongée, c'est qu'il y a eu des problèmes à l'accouchement. Et après, tout redevient normal. Hein? C'est ça, on m'a rassuré. Aïe, aïe, aïe. Un bébé, un nouveau-né, un beau bébé. Hein? Mais le bébé, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de lait spirituel. Hein? C'est ce que dit l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 2, 1 Pierre. Comme des enfants nouveau-nés, voyez, tous des petits bébés. Désirez, ayez soif du lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Un enfant, un bébé, eh bien, il n'est pas appelé à rester à 3 kilos, hein. Mais quelques temps après, c'est 4, 5, et etc. Ça peut faire 80, 90, ça peut faire beaucoup, quoi. Hein. Mais au début, qu'est-ce que c'est? Il va croître, il va prendre du lait, de la nourriture, que vous croissiez par lui pour le salut. Le but, c'est la croissance, afin que l'enfant ne reste pas tout petit, mais qu'il puisse grandir et parvenir à une maturité spirituelle. Un bébé a besoin du lait spirituel. Il n'a pas besoin d'un hamburger, non, il n'a pas besoin. Il ne pourra pas, nourriture trop riche, pas possible. Du lait spirituel. Et pur. Donc, c'est-à-dire, la notion, c'est un lait qui n'a pas été frelaté. Autrefois, ça arrivait, peut-être plus aujourd'hui, de cette méthode, mais on allait à l'épicier du coin avec le pot que nous donnait la maman, n'est-ce pas? Et on allait chercher un demi-litre, un litre de lait. Et il y a quelques épiciers de l'époque, délicats, qui... Pour vendre un peu plus de lait, il le baptisait. Hein, vous vous rappelez l'expression? Il le baptisait. C'est-à-dire, ils ajoutaient de l'eau. Hein, ça faisait un peu plus de lait. Mais le lait, il perdait en force et en vitamines. Nous, on a besoin d'un lait bien consistant, avec toutes les vitamines, n'est-ce pas, toutes les forces. Parce que par cette nourriture, de la parole, eh bien, nous allons grandir. Et croître. L'enfant grandissait. Jésus grandissait en stature, en force. Alors, il est parlé de Samuel, il est parlé de tous ses enfants, n'est-ce pas, Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. On sevrait, il était au lait pendant 2 ou 3 ans, selon à l'époque. Et puis un jour, on coupait le lait. Alors ça fait la crise, ça, hein. Et c'est ce que disait le psalmiste, « Mon âme est calme comme un enfant sevré. » Il y a un moment, il faut arrêter le lait et passer à une nourriture plus consistante, plus forte. Et c'est là que parfois nous sommes un peu comme ces bébés, nous voulons toujours que le pasteur il nous donne le biberon. Hein. Mais non, il va falloir un moment par soi-même apprendre à se nourrir. C'est bien qu'on va vous nourrir, mais c'est bien de se nourrir. Parfois, on peut rester un petit peu dans l'état d'enfance, mais on a besoin de grandir, de croître avec la grâce du Seigneur. Le troisième stade, c'est enfant. Enfant, on considérait jusqu'à 12 ans, n'est-ce pas? Alors là, c'est le temps de l'éducation, de la formation, de l'école, mais c'est fini l'école, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, c'est là qu'on apprend constamment, dans l'obéissance, dans la formation, dans la transformation, n'est-ce pas? Et parfois, un enfant, un bébé, il a besoin constamment qu'on veille sur lui, qu'on prenne soin de lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dort, il boit, il crie un peu, hein, aussi. Paraît-il que c'est très bon pour les poumons, c'est pour ça qu'il faut qu'il crie un peu. Mais il a besoin d'apprendre la discipline, parce qu'un enfant est faible et il est facilement, eh bien, comme dit l'Écriture, perturbé. Et quand Paul considérait les Corinthiens, il dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes, mais comme à des enfants. Hein? » Vous devriez être des hommes, mais vous êtes encore des enfants. Parce que vous vous comportez comme des enfants. On peut avoir des années de conversion et se comporter comme un petit enfant. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Il y avait quelques petites affaires, quelques petites disputes, n'est-ce pas, des querelles. L'un disait, moi je suis pour Paul, Apollos. Mais je passe parce qu'à Istres ça n'existe pas. Donc on passe la ligne, n'est-ce pas? Mais l'Écriture nous dit que Dieu a donné justement à l'Église eh bien, des ministères pour édifier, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être des enfants affermis dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans la doctrine du Seigneur. Il y a tellement de doctrines fantaisistes, extravagantes, j'allais dire, hein, qui cherche aujourd'hui du sensationnel, de l'émotion. Vous savez, quand il est dit « emporté », emporté, c'est parce que vous êtes plus contrôlé. Vous n'êtes pas, c'est pas vous qui contrôlez, vous êtes contrôlé par les gens, emporté. C'est plus fort que vous. Hein. Par toutes sortes, dit l'Écriture, de ruses, de séductions, de faux Christ et de fausses doctrines. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les vents de doctrine qu'il peut y avoir et qui passent de droite et de gauche. Je me rappelle un jour, un neveu, il m'a dit, je suis allé dans une église, et pendant la Sainte-Seine, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu ici, heureusement, ça m'aurait fait un peu peur, les frères, ils étaient là en train de se tordre. Alors, il disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? On lui a dit, il souffre les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas? Bon, alors, il n'y a pas eu ça hein, ce matin, c'est... On peut s'identifier à toutes sortes de choses. Il y a des gens, ils font des rugissements parce que c'est le lion de la tribu de Juda qui est là. Alors, ils rugissent comme des lions. Bon, il n'y a pas de choses comme ça ici. Restez bien. Hein. Mais il faut croître dans la vérité, dans la saine doctrine, dans la parole. Ne nous laissons pas emporter. Je me rappelle qu'à une époque, il y a bien longtemps de ça, il y a des gens qui arrivaient et disaient, mais... Vous avez été baptisé comment? Ben, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la bonne formule, ça. Il faut être baptisé au nom de Jésus. Ah, uniquement. Alors, il faut vous faire rebaptiser. Comme si c'était la formule qui sauve quelqu'un. Vous voyez c'est... Alors, il y a des gens, ils se faisaient rebaptiser au nom de Jésus. Là, ils s'étaient peut-être un peu plus sauvés. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Mais tout ça, c'est des... Il y a beaucoup de choses qui peuvent troubler... Parfois, les églises, des vents, des... Allez, ne continuons pas comme ça. Soyons des enfants, pas flottants, pas emportés, mais des enfants qui vont mûrir, sortir de l'enfance. Paul dit, quand vous étiez enfant, vous parliez, vous pensiez comme des enfants. Mais un jour, vous avez fait passer ces choses. Ne restez pas des enfants. Il faut croître, il faut grandir. Parfois, on peut être... Des gens qui ont des crises de croissance. Le mieux, c'est de devenir un fils. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean dans son épître, quatrième étape. Je vous écris, jeunes gens. Et là, il y a un changement de langage. Si les enfants sont souvent animés par la chair, s'ils sont fragiles, s'ils ont des comportements qui sont de l'enfantillage, eh bien là, jeunes gens... Il y a un changement de langage. C'est plus selon la chair, mais ça devient selon l'esprit. Il y a un changement de caractère. Et il leur dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Ah, c'est bien cela. Vous avez de la force. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous voyez, le lait spirituel, il a fait son effet, il a donné la croissance. On est parvenu à une nourriture plus solide, plus constante, et la parole de Dieu, elle n'est pas simplement votre nourriture, mais elle est ancrée en vous, elle demeure en vous. Nous sommes des gens attachés à la parole, amen, parce que c'est le fondement, c'est l'écriture, c'est elle qui nous donne d'être forts, et que vous avez vaincu le malin, ou... D'autres traductions disent le mal, le mauvais. Eh bien, ça, c'est bien. Vous êtes des fils. Vous avez pris, vous avez grandi. Vous avez montré une certaine, maintenant, responsabilité, maturité. Vous êtes des fils. D'ailleurs, Romains le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ils ne sont plus dans la servitude, mais dans la liberté, justement, des fils. C'est-à-dire, il y a un changement de caractère. Vous devenez des fils, des gens responsables. Quand il est dit par Jésus, « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés non pas enfants de Dieu, mais des fils. » Et nous, nous avons besoin que dans l'Église, oui, il y ait des bébés, il y ait des enfants, mais il y ait des fils qui ont le caractère du fils responsable, qui procure la paix, des artisans de paix, des faiseurs de paix, littéralement. Regardez Abraham et Lot. Moi, je vois Abraham comme quelqu'un qui est dans la maturité. Bien sûr, il a eu ses faiblesses, mais il a su grandir, sortir de l'état de bébé, d'enfant, parvenir à une maturité spirituelle. Quand il y a eu le problème avec les bergers de Lot, hein, parce qu'il y a eu des problèmes. Vous voyez, ils ont eu des problèmes parce qu'ils prospéraient tellement. La grâce de Dieu était là, la bénédiction était là, que leur troupeau, enfin leur berger, a commencé à se quereller pour la question de l'eau, des pâturages. Mais vous avez vu la réaction d'Abraham. Est-ce que la réaction d'Abraham, c'est la réaction d'un enfant charnel? Non. Abraham, lui, il a une réaction spirituelle d'un homme de paix. Et c'est ça le fruit, hein, la paix. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va se faire la guerre, Lot. Hein, celui qui sera le plus fort, il aura le puits, il aura les pâturages. Non. Écoute, Lot, on ne va pas se disputer. Hein. Pourtant, tu es le neveu. Hein. Alors, normalement, le tonton, il a le dessus. Hein. Hein, il a le dessus. Il aurait pu lui dire, tu sais, tu es le neveu, tu auras ma place quand je ne serai plus là, mais en attendant. Non, non, Abraham, il est conciliant. Moi, j'aime les gens conciliants. Hein. Je dis toujours, la vie de l'Église, c'est un consensus, c'est ensemble. Hein. On doit toujours chercher ensemble, dans l'unité, dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Alors il a dit, on ne va pas se faire la guerre. Nous, et il a un bon argument, nous sommes frères de la même famille, de la même racine. Alors on ne veut pas se faire la guerre. Il y a des guerres fratricides, des guerres familiales, allez, disons-le, des guerres de voisinage. Voilà, là, je peux en parler. Hein. Un jour, on a eu le tort de se garer le camion de l'église, qui n'était pas très beau d'ailleurs, je reconnais, devant un voisin, et le lendemain, quand on est arrivé, les pneus, ben, ils étaient à plat, hein. Et on a su, après, il a dit, « Ouais, ce camion, moi, le week-end, j'ai besoin d'avoir une vue plus correcte. Alors, je n'ai pas besoin de voir ce vieux camion de l'église, là, n'est-ce pas, devant chez moi. » Bon, si vous venez me voir, faites attention où vous vous garez, parce que des fois, ça existe encore, ces choses-là. Eh oui, il y a des endroits, il faut faire attention. C'est un peu la guerre. Hein. Mais la guerre, elle est dans le cœur de l'homme, vous avez remarqué. Ça, c'est la vieille nature, c'est l'enfant. Il se chipote. Et tu m'as tiré les cheveux, et tu m'as poussé, tu as eu un gros morceau de gâteau, et moi, je n'ai pas eu ça. Hein. Vos enfants, ils sont merveilleux ici. Hein. Ils se disputent jamais. Hein. Mais ça, c'est l'état d'enfance. Mais la Bible dit rechercher la paix avec tous. Donc Abraham, il a eu la sagesse. Il a eu ce sentiment de paix. Il a dit, écoute, choisis, si tu veux aller là-bas, ben, tu iras là-bas et moi j'irai ailleurs. Et Lot, ah, il en a profité. Il voulait le bon morceau. Hein. Ouais, la plaine, tout. Il a pris le bon morceau. C'était un beau morceau empoisonné hein, qui lui a causé beaucoup de tourments jusqu'à Sodome et Gomorre. Et il a dû, et encore, on voit la grâce de Dieu qu'il a pris par la main hein, et l'a fait sortir. Et encore, il tardait. Vous savez, quand on s'enfonce dans Sodome et Gomorre, c'est difficile d'en sortir. Il faut vraiment la force, la grâce et l'amour de Dieu pour nous en faire sortir. En attendant, eh bien, il n'y a pas eu de guerre hein, entre le tonton et le neveu. Ça s'est bien passé parce qu'Abraham, il n'agissait pas comme un enfant charnel, mais il était déjà dans la maturité spirituelle. Cinquième stade, soyez des hommes. 1 Corinthiens 16, 13. Des hommes. Et même 2 Corinthiens 2, 15 dit, soyez des hommes spirituels. Non plus l'homme charnel, mais l'homme spirituel qui est parvenu déjà à une transformation. Soyez des hommes. Parvenez, dit Éphésiens, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire accompli. Pas simplement des hommes, mais qui sont parvenus à la transformation et à la métamorphose. Devenir semblable. Parce que quand on est des hommes spirituels, là, on peut non seulement être responsable, mais servir le Seigneur. Parce que si on est des hommes charnels encore, des enfants, des bébés, on ne peut pas servir la cause du royaume de Dieu, vraiment. On ne peut pas accomplir le travail que le Seigneur voudrait. Parce qu'on ne reflète pas le caractère de Christ. Ce qu'on dit d'un côté, on le détruit de l'autre. Parce que si nous parlons du Seigneur, mais que nous ne vivons pas selon le Seigneur, spirituellement parlant, nous anéantissons le témoignage. Soyons des hommes. J'ai remarqué qu'en Israël, eh bien, pour faire la guerre, il fallait avoir 20 ans. 20 ans, vous étiez bon pour le service de la guerre. Pour rentrer dans le service du sacerdoce, servir la cause, il fallait 30 ans. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser à 30 ans? Parce qu'à 30 ans, il pourrait rentrer dans le service du sacerdoce, du temple, de la maison de Dieu, des intérêts de Dieu. Soyons des hommes, entre guillemets, mesdames, vous n'êtes pas oubliées. Des fois, on ne cite pas les dames parce qu'elles se croient frustrées. Non, 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 parce que vous, vous êtes dans l'homme. Au départ, il est dit, Dieu a créé l'homme et puis il a pris la côte. Vous faites partie de l'homme, intégrante de l'homme. Donc, même si on ne vous cite pas, quand on dit soyez des hommes, c'est aussi soyez des hommes spirituels, des femmes spirituelles, bien sûr. L'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Mais après, on va un peu plus loin. Allez, on s'arrête. C'est bien d'être des hommes, service, responsabilité, engagement, force, maturité spirituelle. Mais la finalité de tout, c'est d'aller un peu plus loin. Sixièmement, c'est ce que Paul dit à 1 Corinthiens 4, 16. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, 10 000 mètres. Vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi, votre père, qui vous ai engendré par l'Évangile. Sixième stade, être un père et une mère spirituelle, comme Déborah. Déborah, elle est comptée comme mère spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a des pères et des mères spirituelles ici? Mais oui, nous devrions tous, parce que c'est là que non seulement en tant qu'homme nous servons, mais nous sommes appelés à nous reproduire. Ce n'est pas un enfant qui peut enfanter, ce n'est pas un ado, mais c'est un homme spirituel. Se reproduire, soyez des hommes spirituels qui engendrent par l'Évangile. Paul, on ne connaît pas, bien sûr, ce n'est pas dit, mais on voit très bien que Paul n'avait pas d'enfant, enfin, c'est pas cité, bien sûr, mais il n'avait pas d'enfant, mais il avait des enfants spirituels. Quand il est parlé à Philémon, il lui parle à Philémon, il lui dit, je te prie, pour lui, celui qu'on appelle Onésime, qui n'était pas utile, mais qui est devenu utile, je l'ai engendré dans les chaînes. Il a été un père spirituel pour lui, il a engendré. Et frères et sœurs, si chacun d'entre nous, nous sommes des pères et des mères spirituelles, l'année prochaine, eh bien, il y a le double de l'Église. Eh oui. Et après le double, et encore le double, là, il faut casser la salle, il faut en faire une autre. Il faut envahir les impôts. Le père spirituel, c'est la procréation. Nous sommes appelés à donner la vie, engendrer la vie, à nous reproduire. Quand Adam et Ève, n'est-ce pas, au départ, il a dit « Remplissez la terre, fructifiez-vous !» Quand il est dit, c'est porter du fruit. Être des pères et des mères spirituelles. Bon, on va s'arrêter avec des pères et des mères spirituelles qui se reproduisent. On ne veut pas être stérile, mais se reproduire. On va un peu plus loin. Allez. Alors là, vous allez me dire ça. Vieillard. J'ai noté vieillard. Hein. Paul étant ce que, dit, étant ce que je suis, Paul, vieillard. Oh là là, vieillard. Pour nous, un vieillard, c'est quelqu'un qui est vraiment... Hein, qui a plus que des cheveux blancs, parce que j'en vois beaucoup qui ont des cheveux blancs. Hein. Moi, j'ai la barbe blanche, ça ne se voit pas, hein, mais dessous, elle est... Alors, des vieillards, presbytes, hein, qui a de l'âge, beaucoup d'âge, qui a des cheveux blancs, mais c'est un signe d'honneur. Hein. Vous savez que dans la pensée hébreu, la personne qui est âgée, vieillard, eh bien, c'est inspirer le respect... La sagesse et l'autorité. Le mépris des vieillards est un signe, quelqu'un disait, un signe de la dégénérescence de la société. Ésaïe 3, 4, n'est-ce pas ? Les vieillards. Bon, alors moi je préfère anciens, c'est mieux. Hein, ah, voilà. Parce que c'est le même mot. Hein, les vieillards, ça fait âgé, vous voyez. Mais anciens, c'est mieux. Hein, les anciens, eh oui. Pierre parle et dit « Moi, ancien comme eux, ancien, c'est les notables, ah, c'est les dirigeants, c'est ce qui... Job disait, moi, je pensais que les anciens, l'âge, considéré avec âge. Alors, je disais finir avec les vieillards, les anciens, n'est-ce pas c'est... Mais moi, je suis content parce que j'ai lu dans l'Apocalypse qu'ils sont dans le ciel. Ah les 24 vieillards, qui représentent peut-être, on dit l'ancienne, la nouvelle alliance, les 12 apôtres, les 12 tribus. Bon, enfin, ils sont là, dans le ciel. Ah, merci Seigneur, je n'aurais pas resté sur la terre. Hein. Paul vieillard, il est dans le ciel. Ils sont autour du trône. Oh, mais c'est magnifique ça. Jean, regardez, lui l'ancien, il dit ancien, vieillard. À 90 ans, il a la révélation de l'Apocalypse. La plus grande révélation de tous les temps, c'est Jean, un vieillard, un ancien, allez, disons un ancien, hein, qu'il a eu. Hein. Il est bien dit, les jeunes gens auront des songes, les vieillards auront des songes. Pas des cauchemars, des songes. Hein. C'est pas fini, vous voyez ? Nous, on a une optique un peu terrestre, le corps se dégrade. Mais dans le ciel, moi, je les vois en pleine forme. Ils sont autour du trône, les 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs. Mais c'est magnifique, ça. Hein, ils ont sur la tête des couronnes d'or. Oh là là, hein, on n'a pas dit qu'ils sont périmés. Non, loin de là. Ils sont en pleine forme, ils ont des beaux vêtements blancs. Et ils ont sur leur tête des couronnes d'or. Ils se prosternent et ils adorent l'agneau. Amen. Merci Seigneur.